Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Antiquissimo, année 2025, on est bien obligé de s'habituer à ces beaux chiffres tout nouveaux, tout neufs. Et si je suis aujourd'hui auprès de Simon Azéma, au musée d'Ambrossum et sur le site d'Ambrossum, c'est parce que le musée s'apprête à réouvrir.
Oui, tout à fait. Bonjour. En effet, nous, comme tous les ans, nous réouvrons au 1er février. Et donc, nous démarrons cette nouvelle année.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois, puisque vous avez fermé grosso modo fin décembre? Qu'est-ce qui se passe pendant tout le mois de janvier?
Alors, c'est un mois qui permet à l'équipe de prendre quelques congés.
Oui, j'imagine.
Mais aussi de retourner dans les locaux du musée sans ouverture au public pour prendre le temps de faire l'inventaire, tout recalibrer la boutique du musée, mais aussi la collection et refaire un grand nettoyage avant 11 mois d'ouverture, 6 jours sur 7.
Voilà, 6 jours sur 7, oui, c'est ça qu'il faut bien dire. On l'a dit, répété en plusieurs émissions que nous avons déjà consacré à ce bel endroit. Le musée peut être fermé à certains moments, mais le site, lui, reste ouvert tout le temps.
Oui, on a cette chance-là d'avoir un bâtiment muséographique donc qui a des horaires d'ouverture, bien évidemment. Mais par contre, la balade archéologique reste accessible en permanence, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, finalement.
Oui, et ça permet de concevoir ce lieu comme un lieu d'histoire, mais un lieu de promenade où tout se conjugue entre le Vidourle qui passe à tout près, c'est une merveilleuse vue sur le pont, même si ses arches ont peu à peu disparu, et puis les pierres qui disent qu'il s'est passé des tas de choses. Là, il s'est passé des tas de choses. Grosso modo, l'acmé, l'apogée de cet endroit, c'est quelle époque ?
Oh, on est sur plusieurs siècles, hein, mais on va dire qu'on a une occupation très forte à partir du 4e, 3e siècle avant notre ère, avec une période gauloise et l'installation de peuples qui vont fonder ce qu'on appelle l'oppidum, donc ce village gaulois qui est fortifié sur la colline. Et on va avoir vraiment un moment d'effervescence au 1er siècle avant notre ère, suite à la conquête romaine, où là on va avoir des grandes transformations qui vont se produire. Donc si on place un apogée quelque part, c'est sans doute celui-là, entre le 1er siècle avant et le 1er siècle de notre ère.
Alors du coup, aujourd'hui, à l'occasion de cette réouverture, on va parler de l'exposition qui avait déjà été entamée, mais qui se poursuit jusqu'à quand déjà ?
Jusqu'au mois de juin. Jusqu'à la fin juin 2025, on présente cette exposition temporaire dans le hall d'accueil du musée.
Alors ça, on va y revenir en détail, mais du coup, je voulais attirer l'attention sur le fait qu'en fait, grâce à cette exposition, plusieurs siècles se chevauchent. On a ce premier siècle avant et après Jésus-Christ dont vous venez de parler. On a la date de 1835, on y reviendra tout à l'heure, 1931, 2021, 2025. Ça fait un télescopage un peu vertigineux de toutes ces périodes et du coup, on en vient à l'idée qui est à la base de cette exposition, on peut dire encore nouvelle, même si elle a été en octobre inaugurée, c'est ça ?
Aux Journées du patrimoine, donc mi-septembre.
C'est ça, mi-septembre. Donc elle a déjà un petit peu roulé, cette exposition. Tout à l'heure, on aura peut-être l'occasion de dire si vous avez eu des retours là-dessus. Mais d'où est partie l'idée ?
Alors cette exposition, elle émerge suite à un don. Le don de la famille Grand, ce sont les descendants des premiers fouilleurs d'Ambrossum, donc Jean et Marcel Grand, qui étaient deux frères habitant Galargues-le-Montieux et des propriétaires terriens largement investis dans les traditions locales concernant les traditions taurines, la bouvine, et qui vont avoir aussi, comme beaucoup finalement d'érudits de leurs époques, une passion pour les choses anciennes et donc la préhistoire, mais pas que, le patrimoine du territoire environnant.
Alors ça, c'est 1835 ?
Pas tout à fait.
Pas tout à fait.
En fait, l'exposition couvre une période plus large. Jean et Marcel Grand vont travailler sur Ambrossum essentiellement au tout début du XXe siècle, donc entre 1900 et 1909. et 1909-1910 même. Et en fait, 1835, on a pris un peu plus de recul en fait par rapport à cette à ce travail-là de la famille Grand. On a voulu travailler sur l'ensemble de la redécouverte d'Ambrossum en termes d'agglomération à partir du 19e siècle. Donc on connaît très bien le pont dès le XVIIe siècle, qui reste largement peint, représenté, décrit aussi. Dès 1625, on en a les premières représentations. Mais Ambrossum se réduit au pont pendant très très longtemps. On oublie totalement qu'on avait une agglomération gallo-romaine, encore attendant sous la garrigue. Et donc c'est sur ça qu'on se concentre l'exposition. C'est la redécouverte d'Ambrossum au sens agglomération antique. Et en 1835, c'est un prêtre, un protestant, un pasteur, qui va franchir le Vidourle, puisqu'il est à Galargues-le-Montieu. Il franchit le Vidourle en barque.
Il ne dit pas « Alea iacta est », lui.
Non, pour le coup, plus par curiosité, puisqu'il ne connaît pas la région. Il la découvre en étant affecté à la paroisse de Galargues, et donc traverse le Vidourle en barque, observe ce pont romain, et il va s'apercevoir que sur la colline, il trouve énormément de tessons de poterie, et donc il va faire les premières fouilles. Et ce sont les premières fouilles documentées. Et 1835 correspond à la date de publication de son ouvrage, pas sur Ambrossum, mais sur la région, sur le patrimoine de la région. Et c'est le premier auteur qui signale avoir fait quelques sondages, avoir récupéré des éléments qu'il associe, qu'il essaye de dater. Et donc, il repère pour la première fois le rempart gaulois, il en fait une description. Et donc, 1835, c'est vraiment le redémarrage de Ambrossum en tant qu'agglomération.
Donc 1835, c'est la première borne. 1931, bah, vous avez parlé de ces deux frères. Et alors, quand on marche à grands pas dans l'histoire, on arrive à 2021, autre jalon. Qu'est-ce que c'est que ce jalon-là ?
Et donc 2021, c'est le don de cette famille, des descendants de Jean et Marcel Grand, qui vont, à l'occasion de travaux chez eux, finalement, donner une partie de leur collection, parce qu'à l'époque, c'est comme ça que ça se fait. Les fouilleurs, les archéologues de l'époque conservent leurs découvertes avec l'accord du propriétaire de terrain, du terrain en général. Et donc chez eux, ils avaient encore des caisses d'objets issus des fouilles de leurs aïeux finalement. Et il y a une partie évidemment trouvée en Ambrossum, mais il y a une partie aussi trouvée dans la région, alors à une vingtaine de kilomètres autour de Galargues-le-Montieu. Et donc, tous ces objets, il a fallu les étudier, les inventorier, puisqu'on ne partait à l'origine de rien, simplement.
Oui, parce que j'imagine bien qu'il ne les avait pas datés avec des petites étiquettes. Enfin, c'était un peu en vrac.
Alors, il y avait beaucoup de choses en vrac, c'est vrai, mais on a eu la chance, et ça, c'est une grande chance, d'avoir à la pointe de plomb ou au crayon, sur quelques silex, la provenance. Et donc, on a pu lire et identifier... Alors, pas pour tous les objets, hein, sur quasi 400 objets, il y en a peut-être une centaine qui sont, dont la provenance est indiquée. Mais en tout cas, on sait que ça a pu provenir de Junas, de Haujargues, voilà, beaucoup de villages du Gard et de l'Hérault, en fait, à une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau.
Et alors, ça veut dire que ces gens, toute cette famille, les descendants, se sont toujours intéressés aux cailloux qu'ils trouvaient, ça et là?
Alors c'est un vrai hobby en fait de la fin du 19e siècle et du début du 20e, où on fonctionne avec des sociétés savantes finalement, et donc ce sont des réunions, des sociétés d'érudits locaux qui vont se passionner pour plusieurs choses. Et donc la première période qui va vraiment intéresser à cette époque-là, plutôt au 19e siècle, ça va être la préhistoire. Et progressivement, on va s'intéresser à ce qu'on appelle aujourd'hui la proto-histoire, donc cette transition entre finalement le néolithique et l'antiquité classique, qui est déjà bien observée, mais c'est une redécouverte finalement de la civilisation gauloise et de la fin du néolithique.
Et alors tous ces objets qui avaient été donc certains marqués, d'autres pas, vous avez à peu près idée de leur provenance et vous avez réussi à les dater parce que ça devait correspondre à des époques complètement différentes.
Alors c'est tout le ça a été tout le challenge de cette exposition. C'était à la fois reconstruire l'histoire de la constitution de cette collection, donc de travailler sur ces fouilleurs, essayer d'étudier leur profil, et en même temps travailler sur d'où proviennent ces objets et à quelle civilisation appartiennent-ils finalement. Et donc il y a toute une part d'objets antiques, de céramique notamment, ou de fragments inscrits, de sculptures, qui proviennent d'Ambrosum, à n'en pas douter, puisqu'on a des timbres d'amphore par exemple, qui sont similaires à des découvertes qu'on a fait postérieurement. Donc par comparaison, par analogie, on sait que ça vient d'ici. C'est une céramique qui est assez récurrente ici dans les fouilles plus récentes qu'on a pu faire. Et donc pour ce volet antique, on a travaillé évidemment avec l'archéologue qui travaille ici habituellement, qui s'appelle Maxime Skrenzi et qui mène les fouilles, qui a mené les fouilles entre 2016 et 2024. Donc les services du musée ont inventorié, étudié, fait une première étude, puis demandé conseil à l'archéologue. Et pour la partie préhistoire, on a fait appel à un archéologue de l'université de Montpellier, Paul Valéry, qui s'appelle Luc Jalot et qui est spécialiste du néolithique et qui a su avoir les yeux et les compétences pour observer finement les silex, leur usage, essayer d'attribuer à tous les objets une fonction, mais aussi une technique et une provenance, notamment pour la céramique, voilà, par analogie avec des découvertes anciennes. Donc on a su réattribuer et on allait plutôt loin finalement dans l'étude et dans l'identification, ce qui n'était pas gagné au départ.
Donc j'imagine que donc il y a toute cette phase où vous êtes en train de trouver puis d'inventorier ces objets, et puis ensuite l'idée de l'expo, alors c'était quand est-ce qu'elle a jailli?
Alors l'idée de l'exposition est triple finalement, puisque on avait un enjeu de remerciement aussi, de valoriser ce don, hein, tout simplement, de montrer que même si ce sont des collections un peu hors sol qui ont été constituées il y a longtemps avec d'autres techniques d'archéologie, on peut en tirer quelque chose, on peut faire revivre ces objets, étudier leur provenance, leur usage. Et donc c'est à la fois un remerciement, c'est à la fois pour la famille Grand bien évidemment, c'est à la fois montrer que c'est un patrimoine commun qui peut revenir devant le public, qui peut être présenté. Là en l'occurrence c'est un don, mais ça peut prendre la forme d'un dépôt par exemple, cette donation fait que ces objets appartiennent au domaine public et ils sont imprescriptibles et inaliénables. Désormais, ils ont une forme de protection, même si ce n'est pas un classement monument historique ou autre, ils sont dans le domaine public et ils y resteront. Donc ça, c'est un premier point, et de valoriser ça et de montrer ça, c'était assez important pour nous. Ensuite, on a un deuxième objectif aussi. Cette exposition était le point de départ aussi d'une réflexion pour modifier dans les années futures le musée, et donc faire une première étude de ces objets qui sont finalement assez atypiques, et lancer cette première étude permettra d'envisager de les montrer dans une future refonte scénographique. Si dans les années à venir le musée vient à changer, et bien là ce qui est temporaire deviendra un peu plus permanent.
Très bien. On va marquer une petite pause musicale et on se retrouve après pour justement voir comment elle est faite, cette exposition, après avoir réfléchi au pourquoi, comment elle est faite et la réaction du public.
Dieu dont la lyre est d'or, ô fils du grand Zeus, sur le sommet de ses monts neigeux. Toi qui ripens sur tous les mortels d'immorales oracles, je dirai comment tu conquis le trépied fatidique gardé par le dragon, quand de tes traits tu mises en fuite le monstre affreux au repli tortue. Profond, fille de Zeus retentissant, vierges aux bras glorieux. Venez par vos accents charmer le dieu Phébus, votre frère à la chevelure d'or. Le dieu qui sur les flancs du Parnasse parmi les belles Delphiennes, sur la roche à double cime, monte vers le cristal pur des eaux de Castalie. Maître étincelant du mont à l'antre prophétique.
Antiquissimo, Radio Alliance Plus, et je suis toujours avec Simon Azéma, dont je n'ai pas rappelé le titre tout à l'heure. Quelle est votre fonction précise ici à Ambrussomme?
Alors, je suis co-responsable du site et musée d'Ambrussomme, et je suis plus particulièrement en charge des projets de développement finalement culturel qu'on peut mener ici.
Vous êtes deux, c'est ça, hein, à gérer?
Je travaille avec Émilie Baudon, donc qui a un volet plus chargé des publics, finalement, et qui dirige l'équipe de médiation et toute la réception du public et l'accessibilité aussi des lieux.
D'accord, donc ça veut dire les visites, c'est ça.
C'est ça.
Et tandis que vous allez concevoir davantage les grands programmes sur le musée.
C'est ça. Alors on travaille évidemment en équipe.
Forcément
mais,
en équipe.
On a des orientations,
voilà.
En effet.
Parce que ça fait quand même pas mal de travail. Alors, tout à l'heure, en première partie, vous expliquiez que lorsque cette exposition serait terminée, donc on a encore quelques mois devant nous, il faudra réfléchir à que faire de ces objets, où les mettre, et peut-être dans un futur plus lointain, concevoir des changements dans le musée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot de tout ça ?
C'est en effet un des projets de fond, un des grands projets. Hein. Donc en effet, c'est plutôt sur du moyen-long terme. Mais on a la chance d'être à un site qui est encore fouillé à l'heure actuelle. On a une campagne de fouilles très importante sur la zone monumentale de l'Oppidum entre 2016 et 2024. Et donc forcément, il y a du mobilier qui a émergé. Donc il y a à la fois une réflexion sur qu'est-ce qu'on va restaurer et montrer au public sur le site, mais aussi qu'est-ce qu'on fait de ces objets qu'on vient de découvrir, qui vont être en restauration et qui devraient partir là dans quelques semaines finalement en restauration. Et donc entre l'apport de la collection Grand, donc, qui est issue de ce don, la découverte du mobilier archéologique depuis 2016, et donc on a un renouvellement de collection qui nous laisse envisager en effet une refonte scénographique, de montrer l'avancée de la recherche, puisque notre mission de service public en tant que musée, c'est justement réduire ce temps entre la recherche et le public. Et donc on se situe, on est ce média entre les deux, et donc forcément, voilà, on a plein de projets.
Et est-ce que cette découverte de ces objets que vous avez fait parler d'une manière ou d'une autre vous a éclairé sur les découvertes que vous aviez faites dans les campagnes de fouilles et vice-versa? Est-ce qu'il y a eu une interaction entre les deux?
Alors oui, parce que ça a permis réellement d'observer parfois, par exemple, on pensait que certains fragments écrits, on en avait une interprétation parce qu'on n'avait qu'un fragment, et puis là on s'est aperçu qu'on avait un autre morceau qui était jointif, et donc on a une lettre en plus par exemple. Et donc à la lumière de ce qu'on connaît aujourd'hui du site, ça nous permet de voir un peu plus.
Et alors vous parlez d'écriture, c'est quel alphabet dont on parle ici?
Alors là, c'était de l'alphabet latin.
D'accord.
Du coup, l'objet auquel je pense. Mais c'est vraiment... J'évoquais tout à l'heure un des timbres d'amphore qui a été retrouvé ici. On pensait que dans les années 90, c'était un inédit, finalement, de trouver ce timbre d'amphore avec ce nom. Et là, dans la collection Grand, on s'aperçoit qu'il y a déjà un précédent.
Ouais.
C'est récurrent. Et donc, c'est plutôt intéressant de voir que voilà, l'inédit, en fait, ne l'était pas. C'est juste qu'il n'était pas connu.
Et est-ce qu'on peut faire une connexion avec le Mas des Tourelles à Beaucaire, ou avec la trace d'un vigneron particulier propriétaire, ou c'est pas du tout comparable?
Alors, vraisemblablement, c'est... Au regard de la pâte et de l'argile et de la confection, c'est des amphores qui viendraient plutôt de la vallée de la Cèze, pour le
D'accord.
coup, et pas fabriqués ici à Ambrussomme. Mais en tout cas, on sait qu'on a vraiment un échange, et ce qui est intéressant aussi, ça documente comment on a fouillé au XXe siècle, en fait. On l'a probablement trouvé au sommet de l'Oppidum, cet amphore, vu ce qu'on sait de la localisation des premières fouilles. Et dans les années 90, c'était au bas de l'Oppidum, dans le relais routier. Donc il y a une connexion qui se fait aussi sur une même temporalité, une même occupation des sols à un moment donné.
Et une notion de commerce peut-être qui va avec aussi.
Tout à fait. Là, et là, on sait que, voilà, y a, à un moment donné, il y a plusieurs amphores qui ont transité et qui viennent bon, dans un rayon de moins de 100 km. Mais voilà, on regarde avec un peu plus d'attention les provenances des produits et la collection grande nous affirme un peu plus cela.
Oui, parce qu'on n'oubliera pas qu'Ambroussoum est sur un carrefour de communication.
Oui, c'est ça. Entre le fluvial, finalement, avec le Vidourle, donc en nord-sud, on va dire, jusqu'à la zone lagunaire, qui était largement utilisée. Et on a évidemment la Via Domitia qui passe juste au pied de la colline.
Et avec ce relais que vous aviez là sur place et qui a dû voir passer pas mal de gens, et j'imagine peut-être mon cher poète Martial est-il passé par là pour aller de Bilbilis à Rome. C'est ce que je peux imaginer, c'est ce que j'espère. Alors, on est là au cœur, et je trouve que c'est très émouvant, de l'histoire de l'archéologie, en fait.
Oui, c'était le troisième objectif, finalement, de l'exposition. C'était aussi de montrer que les pratiques ont évolué, les personnes, les profils des fouilleurs ont évolué, les pratiques ont évolué, les autorisations aussi, et la loi a largement évolué aussi. Et cette exposition, elle se place aussi dans cette optique-là, de montrer qu'est-ce qui était faisable, autorisé, accepté à l'époque, et aujourd'hui, comment on fonctionne et pourquoi. Et il y a vraiment un besoin très important de pédagogie, parce que justement, on n'a pas du tout la même pratique. On est plus du tout aujourd'hui dans une archéologie d'accumulation où on va essayer de montrer la civilisation par la récurrence d'objets d'un type ou d'un autre. Et là, on s'aperçoit que cette pratique-là d'accumulation était tout à fait prenante dans ce qu'on peut trouver dans la collection Grand. On a peut-être 200 types de danses
similaires
en céramique,
en fait.
Alors similaires ou légèrement différentes, mais en tout cas qui ont été vraiment collectées dans une optique d'accumulation pour montrer ce qu'à un moment T l'homme a fait comme type de préhension de céramique. Et aujourd'hui on ne fonctionne plus du tout comme ça, on fonctionne avec une archéologie de contexte où l'objet est toujours resitué dans son contexte de découverte pour être interprété au mieux finalement. Et confronter ces deux aspects, et on n'a pas voulu évidemment faire de jugement de valeur, loin de là, mais c'est juste une approche qui est différente. Et la troisième partie de l'exposition va vraiment sur ce terme-là, c'est-à-dire être fouilleur aujourd'hui, être fouilleur il y a 120 ans, n'est pas du tout la même chose.
Et alors justement, puisque vous parliez de troisième partie, on va essayer d'esquisser pour nos auditeurs qui ne manqueront pas de venir voir l'expo de leurs yeux à eux. Comment elle est faite, cette exposition? Alors, vous aviez déjà un problème de place, hein, puisque le musée, il n'a pas une superficie énorme, et vous avez choisi donc de mettre des panneaux. De quelle façon?
Alors l'idée était de retrouver un peu, justement, je parlais tout à l'heure de l'idée d'accumulation et d'érudit. Très rapidement, l'idée d'évoquer une scénographie autour du cabinet d'érudit. Sur les étagères, des éléments en bois où on va largement accumuler et montrer tout ça. Donc ça, c'était le squelette finalement de l'exposition et quelque chose donc d'assez vieux, l'idée de bureau, de cabinet. Et là-dessus, vu que l'exposition propose une lecture contemporaine de ces objets qui ont été trouvés il y a 120 ans, de plaquer finalement des matières type PVC qu'on va avoir dessus. Donc de jouer sur l'anachronisme de ces 120 ans finalement. Donc ça prend la forme d'une sorte de gros meuble qu'on peut découvrir dans le hall d'accueil du musée.
Et alors, elle est conçue. Alors, je dois dire, ce qui est émouvant aussi, c'est les photos. Hein, on voit ces gens d'une autre époque, mais pas si loin de nous, en fait, qui sont à l'œuvre et on les voit passionnés. Hein. Et vous avez organisé comment, alors, ce meuble qu'on contourne pour voir des tas de choses différentes, et dans quel ordre?
Alors, il y a trois parties principales. Il y a une partie qui positionne le contexte, en fait, avant le développement de l'archéologie et de la découverte d'Ambroussoum. On entame l'exposition par cette phrase de Jules Renouvier, qui est vraiment très importante et qui résume totalement la pensée autour d'Ambroussoum. C'est « Ambroussoum n'a d'autre illustration que son pont ». Voilà. Et donc, en 1860, on démarre par cette phrase qui est « hors mille ponts, hein, en gros somme, il n'y a rien », en d'autres termes. Et c'est très intéressant parce que ça va être progressivement démenti,
oui,
finalement, par les premières fouilles de Jean et Marcel Grand, mais aussi de leur cousin qui s'appelle Émile Marignan, qui est un médecin qui habite Marcillargues et qui, lui, est un grand préhistorien qui va travailler à la fois sur la préhistoire, mais aussi qui est ethnographe et qui va travailler notamment à Paris sur les premiers musées ethnographiques et qui va être le créateur avec Frédéric Mistral et donc le premier directeur du musée Arlatène à Arles,
oui,
le musée ethnographique. Et donc cet aspect-là, sur la redécouverte et le profil des premiers fouilleurs, ça va constituer la deuxième partie. Donc qui sont-ils? Pourquoi on en vient à s'intéresser à ça?
Parce qu'à l'époque, le métier d'archéologue n'existe pas. On n'est pas archéologue.
Non,
on est érudit, passionné, voilà.
Voilà, il n'y a pas de... On se désigne comme archéologue puisque le mot existe déjà, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Et pour le coup, Émile Marignan est plutôt à une démarche totalement ethnographique dans sa pratique de l'archéologie. C'est-à-dire que lui ne va pas chercher à faire une archéologie de contexte, à comprendre qu'est-ce qu'il est en train de fouiller et pourquoi. Il va s'intéresser aux objets et il va essayer de les associer à des objets que lui connaît aujourd'hui. Donc, par exemple, un silex d'une forme particulière, il va chercher finalement dans les objets anciens, dans les outils, à quoi il pourrait correspondre. Et parfois, il fait des analogies assez surprenantes, on va dire, mais qui sont qui correspondent à une véritable démarche que lui va avoir, une démarche scientifique que lui va mettre en place. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'exposition finalement sur les profils, les pratiques et qu'est-ce qu'on sait d'Ambrosome à cette époque-là. Et on termine par une troisième partie qui est plutôt orientée, comme je le disais tout à l'heure, entre l'archéologie d'hier et jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, comment on travaille, comment on valorise les collections. Et le fil conducteur de ça, ça va être la loi, puisqu'on a des grands jalons.
Au début, il n'y a pas de loi. Au début, chacun fait ce qu'il veut.
C'est le code civil qui prévaut. Donc la propriété privée prévaut sur tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a l'autorisation du propriétaire, tout à chacun a le droit de creuser et de récupérer des vestiges. Voilà. Et donc ça va être l'élément qui va prévaloir à peu près sur tout jusqu'en 1941. Et donc à partir de 1941, alors c'est une loi qui est validée un peu plus tard en 1945, c'est l'État qui va donner l'autorisation de pouvoir fouiller dans le but de trouver des éléments patrimoniaux. Et donc c'est une loi qui bascule tout. Après, il y en a plein d'autres, évidemment.
Et l'idée, c'est que c'est le bien commun et c'est plus le bien particulier.
Tout à fait. On en vient, alors même si les objets restent dans le... souvent propriété privée, dans les faits, au moins l'État est averti de où on fouille, pourquoi et qu'est-ce qu'on a trouvé. Sinon, aucune trace finalement de ce qui a été trouvé.
Donc, ça fait un beau programme, tout ça. Et alors, quand vous parliez des projets, est-ce que, par exemple, je n'ai aucune idée là-dessus, est-ce qu'il est prévu d'agrandir le musée pour laisser place à tous ces nouveaux objets? Comment c'est envisagé la suite?
Alors, c'est une bonne question. Pour l'instant, on aura du mal à répondre à la totalité. Mais dans tous les cas, si projet d'agrandissement il y a, en effet, ce serait probablement l'idéal. Si ce n'est pas le cas, il y aura de toute façon une refonte scénographique puisque on a maintenant des objets qui valent vraiment le coup, on va dire, d'être en vitrine et qui apportent énormément de données sur l'histoire des lieux.
Est-ce que vous pourriez citer un objet que vous voudriez, il y en a plusieurs, hein, mettre en valeur dans cette exposition? Un objet émouvant?
Alors, personnellement, j'aime beaucoup une perle. C'est une perle anthropomorphe, donc avec deux visages, qui est une perle en pâte de verre assez grande, hein, qui fait 3-4 cm de haut, une perle tubulaire. Et cette perle, elle représente un visage et c'est une inspiration des perles phéniciennes. Qu'on peut trouver entre Carthage et la Syrie actuelle. Je dis que c'est une inspiration parce qu'en fait, c'est une copie celte d'une perle phénicienne.
D'accord.
Et le centre de production de ce type de perle-là est sur les bords de la mer Noire. Donc, c'est un objet qui vient de très loin.
Ah oui.
Mais qui s'est retrouvé ici dans le village gaulois, il y a plus de 2000 ans, plus de 2200 ans. Et c'est un objet qui est touchant parce qu'il montre qu'il y a 2200 ans, il y a eu un contact avec l'Orient, le Proche-Orient, voire un peu plus lointain, entre les Gaulois qui étaient ici et donc ces peuplades qui viennent de la Méditerranée.
Et bien c'est sur cette perle à tous les sens du mot qu'on va rester. Mille merci et
merci
beaucoup de succès pour la suite dans ce beau musée. Au revoir.
Au revoir.